C'est avec un « d'accord » prononcé plusieurs fois que commence « Ultramarin », le premier roman de la dramaturge, poétesse et éditrice française Mariette Navarro, publié chez Kidam Éditeur. La commandante d'un paquebot qui traverse l'Atlantique autorise ses hommes à stopper le bateau pour une baignade en pleine mer. La demande est incongrue, tout comme le « oui » de la commandante. La lectrice, le lecteur, même si elle ou il ne connaît rien aux usages de la marine marchande, est surpris et comprend que jamais on arrête un navire pour faire trempette au milieu de l'océan. Les marins, soutenus par leur commandante, transgressent donc cet interdit et descendent nager nus au cœur d'une zone appelée Abyssal Plain, la plaine abyssale. L'autrice décrit à merveille les sensations de la baignade, le plaisir des corps, mais aussi le froid, le sel qui pique, l'eau qui vibre dans les oreilles. Elle écrit, et c'est très beau, que les corps pénètrent l'eau différemment en fonction de ce qu'ils ont vécu. Avec cette baignade, le roman bascule dans l'étrange et l'inconnu. C'est avec elle, pour citer le livre, que tout, maintenant, peut commencer. Je n'en dis pas plus et vous laisse découvrir cette histoire. Notez bien que nous vous proposons ici un échantillon du texte. Vous aurez peut-être l'impression d'une fin à l'issue de la création sonore, mais il n'en est rien. Lisez Ultramarin, ce roman d'une richesse inouïe qui vous emportera dans l'indéfini. Bonne écoute.
Il y a les vivants, les morts et les marins. Ils savent déjà, intimement, à quelle catégorie ils appartiennent. Ils n'ont pas vraiment de surprise, pas vraiment de révélation. Ils savent, à chaque endroit où ils se trouvent, s'ils sont à leur place ou s'ils n'y sont pas. Il y a les vivants, occupés à construire, et les morts, calmes au creux des tombes. Et il y a les marins. Dans le geste connu, le geste de travail, dans le geste refait chaque jour, un espace s'est glissé. Un tout petit espace blanc, inexistant jusqu'alors. Une seconde suspendue. Et dans la seconde suspendue, la seconde imprécise, toute la suite de la vie s'est engouffrée, a pris ses aises, a déroulé ses conséquences. Elle en a la conscience nette, parce que c'est dans son corps que le petit écart s'est frayé un chemin. Elle n'a pas d'argument médical à avancer, elle ne pourrait même pas dire que c'est grave, regrettable, ennemi, une traversée de soi par un lent courant d'air, un souffle contre lequel il faut bander les muscles un peu plus fermement. Elle ne sait pas si la faiblesse a précédé la décision, ou si tout est arrivé d'un coup, quand à la fin d'un repas, elle a dit « D'accord ». Elle ne sait pas si c'est à l'intérieur d'elle que se logeait le désir de céder, ou si quelqu'un dans l'équipage, d'un mot ou d'un regard, a pénétré sa froideur nécessaire. Elle croit que maintenant l'intérieur de son ventre est plus poreux au vent marin. Elle s'entend dire d'accord, avec une voix qui n'est pas tout à fait la sienne, pas sa voix de travail, sa voix de commandante. C'est un son plus aigu, mal placé. Elle qui est très attentive à ça, elle s'aperçoit en les disant que ces deux mots n'ont pas eu le temps de venir du ventre. Ils sont nés directement dans sa gorge et ont éclos publiquement. D'accord. Alors si sa voix a dit, elle n'a plus qu'à suivre. Elle n'a pas l'habitude d'être en désaccord avec elle-même. Entre ses pensées et ses paroles, jusqu'ici, il n'y avait jamais eu de décalage. Il n'y a pas qu'en elle que se promène le souffle. Depuis plusieurs jours, elle entend la rumeur, des rires étouffés. Elle s'est laissée surprendre par la bonne humeur expansive d'un équipage qu'elle croyait bien connaître, qu'elle avait recruté pour sa stabilité et le sérieux dont elle a besoin. Comme à chaque fois, avant l'embarquement, elle a tout fait pour équilibrer les tempéraments des marins qui l'accompagnent. Un dosage d'une rigueur chimique, alors que sa prédisposition, c'est plutôt la mécanique. À chaque départ, elle sait qu'elle prend le risque du précipité, des sangs qui s'échauffent après plusieurs semaines de cohabitation, des rancœurs ignorées, des alcools tristes, des envies d'en finir, des nuits trop longues, des corps qui s'effondrent sous le poids des solitudes. Mais l'amitié soudaine, la joie d'être complice, elle ne les a pas anticipées. Elle est assez désorientée pour ne pas savoir si elle doit y prendre part. C'est ça, son sourire bizarre et sa voix augmentée d'une octave. Elle commande depuis plusieurs années, 3 ans sur ce navire, avec de nouvelles équipes régulièrement et plusieurs mois à terre entre 2 convoyages. Cette autre vie qu'elle oublie, à peine montée sur le bateau, à peine son sac posé dans sa cabine. Sur ce trajet, la route est facile, surtout en cette saison. L'aventure, c'était pour ses lectures d'étudiante, pour les récits qu'elle invente dans les soirées à terre, quand on réussit à la faire parler d'elle. La plupart des officiers, elle les connaît depuis l'école. Ils fonctionnent ensemble sans trop avoir à dire. Quand, dans ce dîner, après 4 jours de pleine mer, le second se penche vers elle et, avec une candeur qu'elle ne lui connaît pas, demande « On pourrait, hein, sans blague, couper les moteurs, descendre les canaux, s'offrir une petite baignade ?» Une voix sortie d'elle dit sans réfléchir. « D'accord. » Répète. « D'accord. » Un court silence suit, bien sûr, et puis un grand rire incrédule. Le passage des Açores a été le signal, le dernier contact avec la Terre. Ils ont attendu de ne plus être en vue d'aucune côte, d'aucun bateau lancé dans son commerce. Ils ont débranché les radars. D'ici, aucun oiseau ne pourrait relayer la nouvelle de leur présence. « Ils s'assoient côte à côte dans un des canots, parce que la question ne se pose plus de passer de l'idée à l'acte. Maintenant qu'ils ont atteint cette parfaite région d'eau calme, celle qu'ils évoquaient ces derniers soirs sur le pont sous la lueur de la lune. Ils s'étonnent des promesses qu'ils se sont faites si légèrement. Mais ils se laissent descendre jusqu'à l'eau, jusqu'à ce qu'un petit choc leur signale qu'ils y sont. À quelques centimètres de la surface, ils n'ont plus qu'à passer les jambes par-dessus bord. Tout, maintenant, peut commencer. Abyssal Plain. Ils se souviennent de cette indication sur la carte, de cette alliance de mots, poétique et effrayante, quand ils imaginaient que le fond les aspirait en ces lieux les plus sombres. Ils pensaient à ceux qui y plongent, rêvent d'y marcher, exploit plus rare que d'arpenter la lune. Ils glissent dans l'eau. Pointe des pieds, puis corps entier. Douleur vive de la fraîcheur et du sel qui brûle comme s'il était plus cuisant au contact des peaux. Cage thoracique compressée par l'immense océan. On dirait que la masse énorme et par endroits grise ne se laisse pas pénétrer si facilement. Il n'y a qu'à voir comment, depuis le départ, elle referme systématiquement l'eau derrière le cargo qui pourtant met toute sa force pour la fendre. On ne la déchire pas comme un tissu. On n'y laisse pas d'empreintes comme dans le sable ou dans la neige. En y plongeant, on se condamne à l'invisibilité. En glissant, ils se demandent s'ils peuvent tous ressentir la même chose. Si l'océan joue aussi ce rôle-là, de relier les esprits entre eux quand les corps s'y ébattent, de conduire les impressions comme la foudre. Au moment de toucher l'eau, ils forment une équipe dans l'exaltation. Pour un peu, ça illuminerait les profondeurs marines, ce courant qu'ils ont l'impression de faire jaillir de chacun de leurs gestes. Ils sont sans envie de bravoure, sans aucune idée de l'heure qui suit. On dirait qu'il leur faut la première claque de l'eau pour faire ce voyage au présent. Ils sont sans intention de rien. On verra bien le geste qui arrive le premier pour les faire flotter comme ils peuvent, pour prendre ce qu'il faut de champ dans le rond déformé par la nage. On verra bien si le souffle suit. Si le silence tétanise, si l'euphorie dans ce cas peut faire office de nageoire. À chacun son image secrète de liberté, à chacun son choc en changeant d'élément. On voit sous leurs paupières passer des paysages, des vacances d'enfance, des plaines si vastes qu'on les croit préhistoriques. Des pluies de déluge, des vélos lancés sous des soleils de plomb, des maisons minuscules cachées dans les rochers, des champs de tournesol et des champs de colza, des plages, des épices, des cabanes. Voilà les visages extatiques, abandonnés, les corps arqués par le plaisir. Et chacun sait que c'est dans sa langue que la mer est la mer et l'océan puissant. On voit de quoi chacun est fait, à sa façon d'entrer dans l'eau. Les bleus sous la peau, les bosses oubliées, les dos abîmés. On reconnaît la jeunesse élastique, ou les muscles éprouvés, les chairs aimées, caressées, et les corps que depuis trop longtemps on délaisse. Ce n'est pas tout à fait la même ouverture que chacun dessinera à la surface. Tous ne portent pas le même poids. Ils glissent pourtant sans choc, s'embrasser d'eau plus qu'il ne faut. C'est à peine si un peu d'écume se forme autour des cuisses quand les jambes s'agitent. En une seconde, ils sont sous l'eau. Les cheveux méduses, enfin livrés à autre chose qu'aux embruns, ondulent, libèrent de leur pression les crânes, ne pèsent plus rien. L'eau dans les oreilles est un bourdonnement inédit, on dirait. Ils piquent en nageant un mètre ou deux en profondeur, entendent leur cœur battre aux tempes, perçoivent une autre sorte de silence. Ils ont quitté les sons de la terre et de la surface. Ils découvrent la musique de leur propre sang. Tambour jusqu'à la liesse, percussion jusqu'à la transe. Son noir des apnées, symphonie des apesanteurs.
Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt-et-un.
Personne ne dit rien. Après quelques secondes, ils se recomptent, brisent le silence, quand même, enfin, s'apporte ce soulagement.
On doit être 20, dit l'un. Vous recomptez avec moi ?
17, 18, 19, 20, 21.
« Attends, recommence !» dit un autre. « Ça fait deux fois que je recommence. Compte, toi !»«
D'accord. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
21. » On a du mal compter au départ. J'avais pourtant bien retenu une vingtaine pile, un chiffre pair. Si j'avais su, je n'aime pas les chiffres impairs. Oh, ça va, on a déjà bien assez de superstitions, on ne va pas s'en rajouter. Oui, mais imaginez qu'on ait perdu dans l'eau nos capacités de compter. Ce serait un vrai problème pour naviguer. Pas grave, il y a toujours les machines, impossible de se perdre. Alors ? Elle demande. Tout le monde est bien remonté à bord ? On est 21, dit l'un. Vous voulez dire 20 ? Il ne dit rien. Elle parcourt des yeux la vingtaine de corps, rapidement, perçoit leur gêne à être nus devant elle, regrettant tellement leur idée de nudité que ça se lit sur leur visage. Elle sait qu'elle pourrait, en parlant, prolonger indéfiniment leur supplice. Mais elle ne le fait pas. C'est l'agacement qui prédomine, devant le camailleux des peaux, les lèvres bleues et les regards qui fuient. Elle remonte à la passerelle, attend que chacun soit retourné à son poste pour faire remettre les moteurs. Ceux qui doivent se reposer se reposent. Les autres reprennent contact avec les chiffres, les écrans, avec les cuisines et les couloirs, avec le bruit de la machine, la chaleur qui fait oublier que tout autour d'eux, il n'y a que de l'eau. Silencieux, le second rôde autour d'elle, tente un rapprochement, maladroit, se racle la gorge, et cet agacement qui la reprend. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu voulais me dire quelque chose ? Non, rien, il racle. Mais c'est drôle que tu aies dit 20 tout à l'heure, parce que moi aussi j'ai cru qu'on était 20. Et en fait, en recomptant plusieurs fois, je suis retombée sur 21. Je ne sais pas où s'est logée l'erreur. Je ne sais pas non plus, coupe-t-elle. L'essentiel, c'est qu'on n'ait perdu personne. À l'heure prévue pour le repas, ils se retrouvent tous, ponctuels et sérieux, fringants ou fatigués. Ils font un point sur les derniers détails de leur route, plus rarement se laissent aller à l'évocation de leur vie terrestre.
Bon appétit, messieurs. Est-ce que tout va bien ?
Demande Machinal, qui n'attend pas vraiment de réponse. Elle profite de leur silence pour les dévisager. Immédiatement, en repère un nouveau qu'elle ne reconnaît pas. Un garçon blond, assis légèrement à l'écart des autres. Celui qui regarde la scène au bord du tableau. C'est la pensée qui la traverse, comme si c'était le moment de s'occuper de contemplation et de composition. Elle se promet de vérifier qui il est, d'où il vient et à quel poste il travaille. Elle essaie de se souvenir de ses mouvements dans l'eau, mais elle confond les particularités de chacun de tous ses corps. Elle tente un sourire, quitte le réfectoire. Ne s'étonne pas d'entendre quelques mots dans une langue inconnue quand elle tourne le dos. Des rires. J'ai vérifié tous les dossiers, tout est en ordre. Elle dit en revenant s'asseoir aux côtés de son second. 21 depuis le départ, j'ai toutes les pièces d'identité. Il n'y a pas d'erreur possible.
Pourquoi elle ment ? Elle n'en a aucune idée elle-même. Un peu par jeu et un peu par défi. Ou pour remettre le réel dans le droit chemin par le seul pouvoir de ses mots et couper court aux angoisses.
Alors, qui es-tu, surnuméraire ? Est-ce que c'est toi, le garçon blond du bord du cadre ? Mais elle a beau fouiller chacun de ses tiroirs, dans ce bureau où elle s'est de nouveau enfermée, elle ne trouve aucun document qui pourrait correspondre à ce garçon-là. S'il s'agissait d'un clandestin, pourquoi se fondre parmi l'équipage ? Et pourquoi apparaître au milieu du voyage ? À une semaine à peine de l'arrivée, quand il aurait été plus simple de patienter encore quelques jours dans la cabine du complice. Et pourquoi ce trajet, s'éloignant de l'Europe, ne desservant aucun Eldorado ?
Commandante, commandante, ne vois-tu rien venir ?
Elle ne sursaute pas quand le second prend la parole juste dans son dos. Sans l'avoir entendu, elle a senti qu'il s'approchait. Elle savait qu'il serait là bientôt pour l'éclairer dans l'épaisseur de ses pensées.
Que l'océan qui blanchit et le ciel qui blanchit aussi.
Drôle de nappe de coton.
Tu as remarqué ? On ne voit même plus nos propres containers.
Oui, l'équipage est inquiet. La brume ici, ce n'est pas habituel. Elle se retourne vers lui.
Elle le connaît assez pour savoir avec quelle délicatesse il a amené cette idée d'inquiétude. Il a dû peser le mot, et chacun des autres, et se faire un devoir de venir lui parler au nom d'une équipe fragilisée d'un coup.
Sans donner l'air de rien revendiquer, son visage paraît maintenant attendre une réponse. Elle pourrait lui saisir la main pour le remercier de ce tact.
Il y a autre chose, commandante. Elle lève les yeux vers lui, surprise d'un léger changement dans sa voix, et de s'entendre encore appeler commandante dans le sérieux de la situation. Ce petit jeu entre eux, alors même qu'à terre, ils s'appellent par leur prénom, se retrouvent quelquefois pour évoquer leur voyage au comptoir d'un bar de la ville qu'ils partagent.
Il semble qu'on n'arrive pas à reprendre de la vitesse.
On est en train de tout vérifier. Il n'y a pour l'instant pas de problème technique identifié. Et bien sûr, il reste assez de carburant. Pas de fuite de ce côté-là.
Ils ont perdu plusieurs nœuds en quelques heures. Cette nappe de brume les repousse comme un aimant, veut les obliger à changer leur trajectoire. Oh non, la mer, tu ne vas pas nous rejeter toi aussi comme le plus traître des rivages.
« On a beau pousser les moteurs, rien n'y fait. On dirait que c'est le bateau lui-même qui décide de sa vitesse, avait dit le second en plissant les yeux, riant un peu. Toi qui aimes les défis, elle avait essayé de sourire. Qu'est-ce que tu nous fais ? Animal bateau, de quoi tu as peur ? Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Qu'est-ce que tu veux nous montrer ? C'est cette brume qui te freine dans ton élan ? C'est quand nous avons arrêté les moteurs tout à l'heure que tu as pris ton indépendance ? Animal bateau, j'espère que ce n'est pas une maladie. Pas un désistement en plein milieu de l'océan. Pas une lourdeur comme la mienne. Allez, animal, réponds. Tu vois bien que je t'écoute. Est-ce que tu as, toi aussi, une idée derrière la tête ? Est-ce que tu vas plonger d'un coup comme le font les baleines, nous emporter dans les abysses ? Allongée sur le tapis usé de sa cabine, elle regarde le ciel à travers le plafond et le soleil brûlant derrière la brume. Il s'est mis à faire très chaud dans les dernières heures du trajet, plus encore qu'au moment de décider de la baignade. D'une main, elle déboutonne sa chemise et cherche quelque chose de plus léger qu'elle aurait à se mettre. Elle détache ses cheveux pour cacher ses épaules. Elle respire et se rend compte comme l'air est épais et moite malgré les climatisations, les souffleries, les thermostats qui donnent l'illusion qu'on ne se laisse pas en permanence malmener par le climat, par les fournaises tropicales et les courants glacés. Dehors, ce n'est pas mieux. L'eau salée et l'odeur de fioul qui saisit à la gorge. Il faudrait faire comme eux tout à l'heure. Plonger, nager, tracer sa propre route. Emplir son nez et sa bouche d'eau de mer une fois pour toutes. Se nettoyer de la graisse des machines. Ultramarin. Mariette Navarro.
Merci à M2CR pour cette création sonore originale. C'était Fringale, à écouter sur bcu-lausanne.ch ou votre application de podcast préférée. Merci à Stéphane Bloch pour le jingle et à Adrien Offette pour le mixage.